La radio communautaire à temps plein à son meilleur. 24/7, 365 jours par année. Surfez sur les ondes de CUT 89,5 FM. Aidez-nous à atteindre notre objectif de 100 000 $ en faisant un don aujourd'hui à www.cut.fm. Cliquez sur le bouton Donate pour faire un don et soutenez le son de votre ville.
There are 274 million French speakers in the world. For France's Emmanuel Macron, speaking French opens doors in an increasingly globalized world. But what many don't realize is that there are more French speakers in Africa than Europe. In 2014, there were 150 million francophones in Africa, but less than 100 million in Europe. There's another 20 million from the Americas and the Caribbean, followed by 2.5 million in the Middle East and Asia. Finally, around 1 million are living in the South Pacific. By 2050, Africa could account for 85% of the francophone world. But according to the International Organization for la Francophonie, those numbers could change depending on how the organization's 54 member states choose to reinforce the language's teaching. With a potential for 700 million speakers, French could become the most widely spoken language in the world. But for now, it ranks fifth worldwide, behind Arabic, English, Spanish, and Mandarin, with 848 million speakers.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city. Proudly student and listener-supported community radio.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Popori Show targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands, and features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popori Show, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. in partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.pori@simpatico.ca.
Nous sommes tous différents. Nous sommes de générations différentes, de cultures différentes et de milieux sociaux différents. Certains d'entre nous occupent des postes d'influence et certains d'entre nous passent leur vie à servir les autres. Quelques-uns d'entre nous aspirent à réussir dans la vie et d'autres à réussir sa vie. Nous avons tous notre unicité, notre particularité, notre personnalité. Nous ne vivons pas les mêmes histoires et ne menons pas tous les mêmes combats. Nous pouvons rester dans l'ombre et subir la vie, mais nous pouvons aussi puiser en nous la force de combattre. Pour faire changer les choses.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale. Sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique, ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Popourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette? With butter or marmalade?
On peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible.
Équipe de France est championne du monde.
Il y a du monde, il y a du monde, il y a Trezeguet. Ah oui, l'équipe de France est championne d'Europe. L'équipe de France est championne d'Europe.
Cette douche froide nous est tombée un petit peu sur la tronche, on s'y attendait pas.
Quelle audace.
Oh non, oh non, pas ça.
La frappe. Oui.
Juste avant la pause, pour ouvrir le score en faveur de l'équipe de France. Le pied dans cette surface, Neuer, Griezmann.
Ouais, c'est passé dans le centre de Caz.
Sur le poteau bavard.
Il y a Paul
Pogba. Une première fois et la deuxième. Quelle efficacité!
Dimanche 4 décembre 2022. Popourri Show, 35e saison. L'ingénieur du son DJ Devera. Production et animation Eric Kader. Avec vous depuis 35 ans sur www.cut.fm. Et pour écouter nos émissions, que vous soyez dans le monde, une seule adresse, popourrichaud.com. Une émission réalisée aujourd'hui en partenariat avec France 24, France Inter, Radio France Internationale, TV5 Monde, en collaboration avec la Toronto French School et des auditeurs de Popourri Show. Bonjour et très heureux de vous retrouver. Nous sommes à plus de 85 000 $ et je vous remercie du fond du cœur pour votre contribution. Il nous reste que quoi, 15 000 $ pour atteindre notre objectif de 100 000 $. Alors il est encore temps de faire un don à Popourri Show, la seule et l'unique émission en langue française sur CUTFM, la radio de l'Université de Toronto. Allez sur le site de CUTFM, www.cutfm, et cliquez sur le bouton Donate. Et n'oubliez pas de mentionner Popourri Show. Et je vous rappelle qu'il y a des tirages au sort de plusieurs cadeaux magnifiques et un voyage pour deux en Islande. Alors, bonne chance. Et au menu aujourd'hui, une édition spéciale sans les magazines d'actualité de RFI et de France 24. Nous faisons place aujourd'hui à une émission sur le VIH à SIDA. C'était la commémoration mondiale le 1er décembre dernier. Et dans la deuxième heure, la radio, comme vous le savez, la francophonie de Toronto est en deuil. Alors nous rendrons hommage à notre façon à notre ami et collaborateur Darnas Taurou. Il était enseignant en sciences sociales à la Toronto French School. Il est décédé le 19 novembre à Toronto. Une émission préparée avec la précieuse collaboration des enseignants de la Toronto French School et des amis et auditeurs de Popourri Show. Poussons pour l'égalité. Là où le VIH prospère, les inégalités persistent. C'est le thème de la journée mondiale de lutte contre le sida cette année. Journée soulignée le 1er décembre partout dans le monde. Où en sommes-nous 40 ans plus tard? Meurt-on encore du sida? Alors que des vaccins contre la Covid-19 ont été trouvés en quelques mois, comment expliquer le retard d'un vaccin contre le sida? Malgré de formidables progrès pour le traiter, le sida tue encore. Témoignage émouvant des francophones, francophiles, vivant
avec le VIH, SIDA. SIDA, attention, danger. En danger, c'est le titre du rapport mondial actualisé sur le SIDA 2022 de l'ONU SIDA, à lire absolument sur notre site. Le virus a tué plus de 30 millions de personnes depuis son apparition dans les années 1980. En 2022, il y a encore 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. Il y a aussi 1,5 million de nouvelles infections annuellement. Une personne en meurt toutes les minutes, soit des dizaines de milliers de décès par mois. L'an dernier, le sida a tué 650 000 personnes dans le monde. Il est estimé que 63 000 personnes vivent avec le VIH au Canada. Du nombre, il est estimé qu'une personne sur 10 ne connaît pas son état sérologique relatif au VIH. Entre 19 000 et 21 000 personnes vivent avec le VIH en Ontario. Depuis quelques années, la proportion des femmes parmi les nouveaux diagnostics du VIH en Ontario a augmenté. L'Europe de l'Est et l'Asie centrale, le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, ainsi que l'Amérique latine, ont tous connu une augmentation du nombre annuel des infections à VIH au cours de la dernière décennie. Les progrès en matière de prévention et de traitement sont en train de ralentir dans le monde entier, mettant des millions de personnes en grave danger. Journée mondiale de lutte contre le sida 2022. Plusieurs artistes en Afrique et en France se mobilisent. Et voici un extrait de Franco Luambo de la RDC qui nous lance un appel. Attention, na sida.
Oh, le sida, une terrible maladie. Le sida, un mal qui ne pardonne pas. Le sida, un mal qui n'épargne personne. Oh, ce fléau, le sida, qui laisse impuissante la médecine. Le sida ravage tous les peuples. Il y a peu, l'Europe et l'Amérique accusaient l'Afrique d'être le berceau du sida. À une période récente, l'Asie se disait écartée par le mal du sida. Aujourd'hui, tous ces continents se retrouvent attaqués. Le sida n'y arrête pas sa sinistre course. Toutes les couches de la société sont victimes du sida. Bébés, enfants, jeunes, adultes, vieillards, ouvriers, bureaucrates, cadres, hommes, femmes, et même les médecins eux aussi. Le sida peut frapper n'importe qui. Le sida peut tuer. Il tue tout le monde qui ne cherche pas à se protéger. Vous, frères et sœurs, qui êtes déjà atteints du sida, ne cherchez pas méchamment à contaminer les autres. Oh, Mawa.
Sida
Édition spéciale. Poussons pour l'égalité. Là où le VIH prospère, les inégalités persistent. C'est le thème de la journée mondiale de lutte contre le sida cette année. Et oui, la journée mondiale du sida qui s'est tenue le 1er décembre et qui marque aussi le début de la semaine autochtone de sensibilisation au sida au Canada est un moment de réflexion sur ce que nous avons accompli en matière d'intervention nationale et internationale de lutte contre le sida et sur ce qu'il nous reste à accomplir. À l'heure où la Covid-19, qui monopolise toute l'attention, nous revenons sur une autre épidémie apparue officiellement il y a 40 ans, le sida. Ce virus dévastateur a tué quelque 36 millions de personnes sur les 80 millions qui ont été infectées par le VIH. Et la maladie tue encore. Entretien avec Yannick Villedieu, ancien animateur des années-lumière à la télé de Radio-Canada. Il a couvert cette maladie comme journaliste depuis ses tout débuts. En voici un extrait de cet entretien, gracieuseté de Radio-Canada.
Yannick Villedieu, merci d'être avec nous.
Ça me fait le plus grand des plaisirs.
Yannick, pourquoi s'intéresser 40 ans plus tard au sida alors que les yeux de la planète entière sont tournés vers la COVID-19?
Vers l'autre pandémie. C'est parce que d'abord, l'épidémie sida, la pandémie sida n'est pas terminée. Il y a encore entre 700 000 et 1 million de personnes qui meurent du sida par année dans le monde.
On l'oublie. Hein?
Encore aujourd'hui. Il y a 1,5 million de nouvelles infections, il y a 37 ou 38 millions de porteurs du virus. Et on sait que quand on est porteur du virus du sida, on l'est pour toujours. Donc l'épidémie est encore actuelle, même si l'autre pandémie a pris le devant, et c'est normal d'ailleurs. L'autre chose, c'est que c'est une histoire, 40 ans, une histoire importante, extraordinaire, une histoire tragique des CDC, des Centers for Disease Control américains, où un médecin, un jeune médecin d'ailleurs, dit à Los Angeles: j'ai eu 5 cas bizarres de jeunes gens comme peut-être 30 ans, la trentaine, qui étaient normalement en bonne forme et qui ont attrapé une maladie, une pneumonie, une forme de pneumonie extrêmement rare, tellement rare d'ailleurs qu'il faut commander le traitement, le médicament au CDC à Atlanta directement. Mmh. Ça se trouve pas dans la pharmacie du coin. Et c'est bizarre, on a ça, ils ont le système immunitaire complètement écroulé. Et la seule chose qu'on remarque, c'est que ce sont 5 jeunes homosexuels actifs. C'est tout ce qu'on peut dire. Et donc c'est ça l'acte de naissance. Et on parle pas du virus. On ne sait pas qu'il y a un virus. On n'imagine pas encore, d'ailleurs, qu'il y a un nouveau virus.
Et ça doit être aussi un choc pour les médecins qui sont souvent jeunes. Je pense à Régent Thomas, par exemple, à la clinique actuelle, qui voit arriver dans sa clinique de jeunes patients qui sont des adultes, qui étaient en bonne santé et qui se retrouvent avec une maladie terrible.
Et une maladie mystérieuse que personne ne connaît. On a eu, dans le cas de Régent Thomas, c'est 1982, son premier patient arrive en disant: j'ai la maladie des Américains. De quoi on parle? Mais parce que c'était une maladie qui, effectivement, touchait beaucoup les milieux, la communauté homosexuelle à New York et en Californie. Et là, ils étaient devant des jeunes qui mouraient et à qui on pouvait rien faire. Et ça, c'était pour les médecins, c'était quelque chose de très très dur. Ensuite, confronté à la mort, parce que les gens mouraient beaucoup.
Parce qu'il n'y avait pas de traitement, il n'y avait rien.
Il n'y avait rien.
Et on voit des témoignages de ces patients qui sont souvent un peu comme des vieillards et qui ont ce sarcome de Kaposi, hein, cette espèce d'étache violacée.
Oui, c'est ça. Il y a eu deux maladies typique du sida au début, donc la fameuse pneumonie à pneumocystis carinii, c'était le nom du microbe en question, et le sarcome de Kaposi. Le sarcome de Kaposi, c'est un cancer qu'on voyait dans certaines régions d'Afrique qui étaient un peu exotiques. On a regardé dans un grand hôpital de New York, il y avait eu 5 cas au cours des 30 dernières années, toujours chez des personnes âgées, immunosupprimées ou à peu près. Et donc, on a ces maladies-là qui arrivent. Donc ça, c'était vraiment surprenant. Et donc, le fameux sarcome de Kaposi, maladie en plus qui faisait des taches violacées sur le corps, parfois sur le visage, et qui donnait une image vraiment terrible du sida. Oui.
Oui, du sida qui est à ce moment-là une maladie honteuse. Hein. Il n'y a pas beaucoup de témoins parce que les gens ne veulent pas expliquer ce qu'ils ont. On cache la maladie.
Les maladies vénériennes ou les infections transmises sexuellement, comme on dit aujourd'hui, ont souvent été appelées les maladies honteuses. Et dans le cas du sida, il y avait ça. Il y avait une opprobre. Alors, comme disait Régent Thomas, à un moment donné, il y avait deux sortes de malades. Il y avait les bons, les pauvres, les hémophiles qui avaient transfusé ou les transfusés occasionnels, qui eux étaient victimes d'un accident. Puis il y avait les méchants malades, ceux qui étaient des homosexuels, qui étaient des utilisateurs de drogue par voie intraveineuse. Donc il y avait ces deux images-là. Mais oui, c'était une maladie qu'on cachait, qu'on voulait pas. Les gens n'allaient pas dire à la télévision, voilà, j'ai le sida.
Une des entrevues qui, moi, m'avait marqué beaucoup à l'époque, parce que je travaillais à Toronto, c'est celle de notre ancien animateur, Luc Hébert, donc qui donne une première et dernière entrevue.
C'était un peu un choc. C'est le sarcome de Kaposi, donc c'est le sida. J'éclate en sanglots.
Puis c'était extrêmement touchant, parce que c'était très rare de voir ce genre d'entrevue.
J'ai l'impression que le témoignage de Luc Hébert, et c'est peut-être la première fois où on voit en gros plan à la télévision le visage du sida, de quelqu'un qui témoigne, qui dit on avait vu des images, etc. Mais en français, donc c'était une des premières fois, je pense. Et ça a été, moi aussi, j'ai un souvenir très très vif de cette image-là, parce que ça a frappé tout à coup. Quelqu'un disait, voilà, j'ai le sida. Il expliquait le cheminement de sa maladie, etc. C'était vraiment... Et ça a été quelque chose d'important, parce que ça a permis de montrer que le sida avait aussi un visage humain.
Le cas de Rock Hudson, il y a des grandes vedettes quand même qui ont admis qu'il y avait le sida, qui ont un peu changé la donne aussi, qui ont donné un peu une autre image de cette maladie.
Tout à fait. Juste 81, 82, 83, donc c'est la maladie des autres, c'est la maladie des homosexuels, la maladie des utilisateurs de drogue par voie intraveineuse. Donc, c'est une maladie que monsieur et madame tout le monde ne peut pas attraper, entre guillemets. Je simplifie un peu.
Aujourd'hui, oui. Pratiquement, donc, qu'est-ce que vous retenez? Parce que votre livre s'appelle Le deuil, donc on en a parlé, et la lumière. Pourquoi la lumière?
Mais la lumière, c'est la lumière qu'apporte l'espoir. Les gens n'ont jamais, même dans les années les plus sombres, au début des années 90, quand aucun médicament ne marchait, rien, on était toujours, c'était la grande déprime, les gens gardaient l'espoir et la volonté de se battre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Le fait aussi que c'était une maladie donc qui était vécue par des groupes, par des ensembles de malades, par des associations de malades, ça c'est important. Et puis surtout la lumière, c'est aussi la lumière qu'apporte la science. Je m'excuse.
C'est important.
La trithérapie, c'est un produit de la découverte de la science. Le troisième médicament, celui qui va faire la différence. C'est un médicament qui a été... On a découvert comment fonctionnait une enzyme en 86-87. On a travaillé pour fabriquer une molécule, puis en 96, on l'a eu, en 95. Dans la trithérapie, il y a aussi quelque chose d'extraordinaire, c'est le 3TC, médicament inventé à Montréal, développé à Montréal, qui est encore utilisé aujourd'hui. Donc la science, la recherche scientifique et la recherche clinique ont fait la différence, comme c'est le cas avec la COVID. Donc c'est ça la lumière. Ça, la lumière, c'est la lumière qu'apporte la recherche scientifique, la recherche médicale.
C'est l'espoir.
Oui.
Merci beaucoup, Yannick.
Je vous en prie.
FM, the sound of your city. Stream us anytime at www.ciut.fm.
France 24 vous propose les observateurs. Un regard unique sur l'actualité, le vôtre. Des photos, des vidéos, des témoignages de nos observateurs au cœur des événements. Vérifié par les journalistes de France 24 et publié sur notre site. Les observateurs, c'est aussi une émission où interviennent nos observateurs par webcam pour vous offrir un autre regard sur l'info. Les observateurs, un réseau participatif et interactif de 5000 citoyens du monde. Les observateurs, ce sont eux, c'est lui, c'est elle, et pourquoi pas vous ? Rejoignez-nous sur observateur.france24.com et devenez acteur de l'information. Vous aussi, soyez nos yeux aux quatre coins du monde.
Cette année, Ciné Franco célèbre ses 25 ans. Le cinéma francophone local, national, international et ses artisans sont au cœur de nombreuses activités menées au long de l'année par Ciné Franco. Parmi les rendez-vous les plus populaires, le Festival Grand Public, le plus important festival de films francophones du Canada anglophone. Il se compose d'une quarantaine de films provenant de divers pays, tels que la France, la Belgique, la Suisse, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Sénégal, et rassemble chaque année des milliers de passionnés. Le programme Jeunesse, exclusivement dédié aux élèves et à leurs enseignants. La fête du cinéma québécois contemporain, grâce au partenariat avec la tournée Québec Cinéma. Et je vous rappelle que tous les films sont sous-titrés, une occasion exceptionnelle pour se familiariser à la langue française et les cultures francophones. Ciné Franco entretient une étroite collaboration avec les acteurs locaux de la francophonie. Il est également très présent sur les médias sociaux, particulièrement sur Facebook et Twitter, pour permettre à tous ses fans de rester en lien avec l'actualité cinématographique francophone. Ciné Franco, 25 ans, ça se fête ! Tout au long de l'année, en ligne et en salle. Restez branchés à CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Ciné Franco est le plus important festival international de films francophones du Canada, fondé en 1997 par Marcel Lynn et devenu l'organisme phare du 7e art qui relie un modèle de pratique artistique au sein de la francophonie. Pour tout renseignement sur Ciné Franco, consultez le site web au cinéfranco.com ou par courriel info@cinéfranco.com. Popourri Show, CUT 89,5 FM, 35 ans déjà. Ciné Franco, 25 ans pour l'amour du cinéma.
Bonjour, ici Peter Biro, correspondant spécial Potpourri Show. CIUT FM and Potpourri Show offer a kind of wide-ranging coverage of the important cultural, social, and political issues of our time, not available on any other broadcast. Ce type de diffusion a besoin de votre soutien. Je suis tellement fier de faire partie de cette émission stimulante. Alors, je vous invite à aider Potpourri Show à rester en onde et à nous écouter chaque dimanche sur CIUT FM.
Eh oui, ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que Sophie France Solidarité des femmes et familles interconnectées francophones du Niagara, un organisme communautaire à but non lucratif, planifie, développe, organise et réalise des projets qui répondent aux besoins réels de la communauté immigrante francophone du Niagara. Sophie France est aussi un festival annuel haut en couleur avec Festive Ben, un salon du livre, des ateliers, des projets ambitieux et novateurs. Sophie France, 15 ans déjà, ça se fête. De la culture, de l'art et du patrimoine pour, par et avec les immigrants et les jeunes francophones du Niagara et de Welland. Découvrez les projets de Sophie Franc en cliquant sur sophiefranc.org ou visitez notre site web popourrichaud.com. Où que vous soyez, si vous songez un jour vous installer dans la région du Niagara, Sophie Franc vous accompagnera dans votre processus d'intégration en vous offrant des services ciblés dans le domaine social, économique, éducatif et culturel. Pour une intégration réussie, une seule adresse, sophiefranc.org. Sophie Franc, un organisme qui a déjà fait ses preuves. Ensemble, faisons le changement. Popourri Show, 35 ans déjà, fier partenaire de Sophie Franc.
RFI et France 24 présentent
Radio Foot International, le Café des Sports.
Hugo Moissonnier.
Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le Café des Sports de Radio Foot qui ouvre ses portes comme chaque vendredi, que ce soit sur RFI en Facebook Live ou bien sur France 24. Autour de la table, deux habitués et un invité spécial de circonstance. Bonjour Rémi Gonneau.
En poste. Bonjour. Comment tu vas?
Très bien, très bien. Voilà. On se tutoie maintenant. Annie. Annie, elle est quelque part en train de se préparer pour la Coupe du Monde. On fait jouer l'équipe des remplaçants avant. De laisser la titulaire, la patronne de l'atelier briller durant la Coupe du Monde. Évidemment, elle sera là pour accompagner la Coupe du Monde au Qatar sur RFI. Soyez rassurés.
Une première à Toronto, ménage à trois, un spectacle à deux drag queens hilarant, du jamais vu. Eh oui, avec DJ sophistiqué. Looks flamboyants, écran géant, chorégraphie bien rodée, rythme pop endiablé, avec trois drag queens, une fois par mois, au Drink Cocktail and Pizza Bar sur la rue Church. Inscrivez-vous à notre infolettre à popourri@cut.fm et courez la chance de gagner un coupon cadeau de $25 gracieuseté de Drink Cocktail and Pizza Bar sur la rue Church, au sud de la rue Maitland. Un endroit caché, oui, au deuxième étage de la rue Church, au cœur du village gay. Ménage à trois, trois drag queens, une soirée en français, une fois par mois, une première à Toronto. Retrouvez les dates des prochains spectacles sur popourrichaud.com. CUT 89,5 FM et Popourrichaud, 35 ans de fierté. Les buzz de la semaine. La 45e édition du Salon du Livre de Montréal a pris fin dimanche dernier. Les livres québécois ont la cote. Les éditions Prises de Parole et plusieurs auteurs franco-ontariens étaient sur place. D'ailleurs, dimanche prochain, nous ferons un détour dans les studios de la librairie francophone de France Inter, qui était à Montréal. Profilage racial, le gouvernement du Québec conteste le jugement qui a ordonné la fin des interceptions aléatoires des automobilistes de race noire, une pratique intolérable pour beaucoup de Québécois. L'Association des policiers provinciaux du Québec s'est aussi prononcée en faveur de la décision du Québec. Cependant, la Ligue des droits et libertés, section de Québec, déplore vivement la décision prise par le gouvernement du Québec de porter en appel ce jugement. Affaire à suivre. Franco-Queer, la première association par et pour les personnes LGBTQIA+, francophones de Toronto, vous invite à un grand gala de fin d'année, le samedi 17 décembre à 18h, un événement à ne pas manquer qui se déroulera au site historique national de Fort York et comprendra des performances de drag queens francophones que nous connaissons très bien ici, Jezebel Bardot et Sophistiqué. Je pense à l'île Maurice, il me semble, n'est-ce pas? Alors, avec la récente vague de haine et de violence anti-LGBTQIA+, aux États-Unis comme au Canada, le gala sera l'occasion pour les personnes LGBTQIA+, francophones et francophiles, de se réunir en communauté, de passer un bon moment ensemble et de célébrer dans un environnement inclusif. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site web francoqueer.ca ou encore popourrichaud.com. Et les conseils scolaires francophones de la région Geneviève-Auger et Benoît Fortin reconduits à la tête de Via Monde. Et aussi Geneviève Grenier et Dorothée Petitpas réunis à la tête du conseil Mon Avenir. Vous retrouverez tous les liens sur notre site popourrichaud.com. Et bravo, félicitations à tout ce beau monde. Crise en Haïti, Trudeau est allé trop vite, croit l'auteur académicien Danny Laferrière. L'homme de lettres a ainsi qualifié cette intervention de Monsieur Trudeau de cavalière et précipitée. Toujours en Haïti, le directeur de l'Académie nationale de police assassiné. Il Maurice, l'une des charges provisoires qui pesait sur l'activiste Bruno Laurette, rayé. Et je vous rappelle que son fils a été libéré sous caution. Cette histoire fait grand bruit, pas seulement à l'île Maurice, mais même à Londres. Et bientôt à l'émission, si le français va mal en France et au Québec, comment pourrait-il se maintenir en Afrique? Parmi nos invités, des chercheurs et professeurs, des universitaires partenaires. Et notre ami et collaborateur Darnas Toru n'est plus. Eh oui, ardent défenseur des droits de la personne, particulièrement des réfugiés, les personnes vivant avec le sida. Il était aussi chroniqueur du journal Express de Toronto et enseignant en sciences sociales à la Toronto French School. C'est l'onde de choc chez ses collègues. Nous sommes très très attristés par cette terrible nouvelle. Certains de ses collègues ont tenu à lui rendre hommage publiquement ce dimanche. Et nous aurons le plaisir d'accueillir dans la deuxième heure Monsieur Ernest Ingongo, Monsieur Sylvain Vasseur et Madame Irène Fan. Les trois enseignent, bien sûr, à la Toronto French School et nous vous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses collègues et aussi, bien sûr, tout le personnel de la Toronto French School. De retour à notre édition spéciale sur le sida dans un instant.
CIUTFM, la première radio de Toronto, élue par le Now Magazine en 2021. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité.
Popourri Show et CIUTFM fêtent leur 35e anniversaire. Popourri Show, la seule émission en langue française, a renouvelé sa convention de partenariat avec Radio France Internationale. 2022 s'annonce une année riche en événements et en surprises.
Oh, le sida, une terrible maladie. Le sida, un mal qui ne pardonne pas. Le sida, un mal qui n'épargne personne. Oh, ce fléau, le sida, qui laisse impuissante la médecine.
À quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça?
Pourquoi c'est comme ça?
C'est où?
C'est qui lui?
Un jour, une question.
C'est quoi le sida? Le sida est une maladie causée par un virus, le VIH. Ce virus s'introduit dans certaines cellules du corps, les lymphocytes, qui sont responsables de la défense contre les maladies. Une fois en place, le virus force le lymphocyte à produire de nouveaux virus plutôt que d'assurer sa mission de protection du corps. Mais alors, le sida prive le corps de ses défenses? Exactement. Le sida rend le corps incapable de se défendre contre des maladies qui ne représenteraient pas un grand danger normalement. Ces maladies profitent du corps affaibli et sans défense pour se développer. On dit que ce sont des maladies opportunistes. Sans traitement, un malade du sida mourra à cause de ces maladies opportunistes, mais pas directement du sida. Heureusement, depuis quelques années, il existe des traitements qui empêchent le virus de se développer dans le corps. Mais ces traitements sont lourds, difficiles à suivre pour le patient. Et on ne guérit jamais du sida. Il faut un traitement à vie. C'est pour ça qu'il faut toujours lutter contre la propagation du virus. Il se transmet lors de rapports sexuels sans préservatif, de contamination par le sang et de la mère à l'enfant lors d'une grossesse. De plus, le virus, une fois transmis, reste silencieux durant un moment. On dit que le malade est séropositif, car il est porteur du virus même s'il n'a aucun signe d'infection. C'est pour cela que chaque année, des associations rappellent à tous que la bataille contre le sida n'est pas terminée.
Tu te poses des questions? Nous, on y répond.
Popourri Show, CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto, présente une édition spéciale. Poussons pour l'égalité. Là où le VIH prospère, les inégalités persistent. C'est le thème de la Journée mondiale de lutte contre le sida cette année. La Journée mondiale du sida, qui s'est tenue le 1er décembre et qui marque aussi le début de la semaine autochtone de sensibilisation au sida au Canada, est un moment de réflexion sur ce que nous avons accompli en matière d'intervention nationale et internationale de lutte contre le sida et sur ce qu'il nous reste à accomplir. sida, les visages de l'autre pandémie. 38,4 millions de personnes vivent avec le VIH, selon l'ONU Sida. Près de 40 ans après sa découverte, le virus du sida reste incurable et continue d'infecter chaque année près de 2000 Canadiens. Dans quelques minutes, je vais vous présenter quelques portraits de ceux et celles qui luttent, chacun à sa manière, contre cette autre pandémie. En cette semaine de dépistage de la Société canadienne du sida, Alex Filiatro, le président directeur général de la Fondation canadienne de recherche sur le sida, fait le point sur la situation au Canada. 40 ans après la découverte de cette maladie, la recherche a beaucoup progressé. La trithérapie, notamment, permet de contrôler le virus chez les personnes atteintes. Toutefois, le virus du syndrome d'immunodéficience acquise, sida, ne se guérit toujours pas et s'avère être un adversaire coriace pour les scientifiques. Selon M. Filiatro, 4 Canadiens seraient infectés par le virus de l'immunodéficience humaine, VIH, tous les jours. C'est vraiment les communautés marginalisées qui sont le plus touchées, incluant les femmes et les communautés autochtones. Il ajoute aussi que les tabous entourant l'infection sont tenaces et jouent encore un grand rôle dans l'épidémie. Joël, Nicole, Rémi sont séropositifs. Et dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre le sida le 1er décembre, ils nous racontent leur vie avec le VIH. Leur témoignage balaye le préjugé sur cette maladie.
Je me suis dit, je mourrais. J'avais l'impression de ne plus exister, d'être transparent.
Au départ, ce n'était pas prévu que je sois encore là aujourd'hui, mais là, je suis là. Et donc, je ne me laisserai pas faire.
Je rencontrais un garçon. Et on avait tous les deux décidé de faire un test parce que tout simplement on voulait arrêter le préservatif. J'étais sur un nuage, à la base j'y allais juste pour vérifier que tout allait bien et en fait bah, tout allait, rien n'allait plus quoi.
J'ai découvert ma séropositivité en 2000. La vie s'arrête. Je crois que c'est ça que ça signifie la séropositivité à ce moment-là. Parce qu'on n'a pas les options qu'on a aujourd'hui de pouvoir se soigner.
J'ai appris ma séropositivité donc en 1992. J'avais 28 ans. Après l'annonce de ma maladie auprès des proches, la solitude est vite arrivée. Pour vous donner un exemple, j'ai plus aucune nouvelle de mes frères aînés depuis plus de 25 ans, je crois.
Pourquoi on rejette les personnes séropositives? Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cette haine. C'est pas les gens qu'il faut rejeter, c'est la maladie qu'il faut rejeter. Je pense que les sérophobes sont ignorants.
J'avais rencontré un médecin qui était un médecin remplaçant. C'était en 1997. Il m'a dit de toute façon, je ne vais pas perdre mon temps parce que vous ne verrez pas l'an 2000.
Ça fait partie de mon quotidien, notamment dans le cadre des rencontres amoureuses. Tout ce qu'on aime n'existe plus finalement. À partir du moment où on l'annonce, pour certaines personnes, ça efface tout, ça gomme tout. C'est difficile parce qu'on se sent totalement déshumanisé.
La personne séropositive, c'est pas elle qui est dangereuse. Parce qu'elle, elle connaît déjà son statut. La personne qui est dangereuse, c'est celle qui ignore son statut. Donc, celle qui ne sait pas si elle est positive, séropositive ou non.
Pendant 5 années avant mon dépistage, j'étais porteur du virus. Donc pendant ces périodes-là, j'ai contaminé moi aussi.
Quand on est sous traitement, quand on est indétectable, on est intransmissible. Et ça, c'est des choses que les gens ne savent. C'est une chose que les gens ne savent pas. You égale you, c'est la révolution, quoi. C'est ce qui fait qu'en fait, on n'a plus du tout peur de transmettre le virus.
Je suis en couple maintenant depuis une dizaine d'années. Donc lui étant séronégatif et moi séropositif. J'ai l'impression d'avoir reconstitué quelque chose en l'espace de 10 ans avec un traitement qui marcherait de mieux en mieux. Une vie sociale qui se remet en marche, et puis peut-être l'acceptation qu'on va vieillir avec la maladie. Mon rêve, c'est de devenir le premier, mais ça c'est un rêve, hein, le premier centenaire séropositif.
Je pense que c'est important d'essayer de changer un peu l'image qu'ont les gens de la séropositivité. Quand je prends mon médicament tous les matins, je ne me dis pas Ah oui, c'est vrai, je suis séropo. Non, pas du tout, ça fait partie de ma vie, c'est comme d'aller me brosser les dents, quoi. C'est un geste naturel.
J'ai envie de vivre pour voir jusqu'où ça va aller. Je vais avoir 60 ans dans 15 jours. Ça fait 20 ans que je vis avec le virus du sida. De toute façon, c'est moi qui ai la victoire sur ce virus.
Quand j'ai découvert que j'étais séropositif, je me suis dit, ah oui, en fait, ça existe encore.
Pour la première fois de ma vie, je suis assis sur ma chaise et je sais, il n'y a plus rien. Le monde s'écroule. C'est non. C'est non. Mais non, c'est pas moi. C'est quelqu'un d'autre. Ça peut pas être moi. C'est juste, ça ne peut pas être moi. C'est tout.
Au début, mes premières questions, ça a été mais est-ce que je peux continuer à garder les enfants? Est-ce que c'est pas trop dangereux?
J'ai peur de quoi?
Peur de les contaminer, ou tu vois, que par un accident, tu vois, que je me coupe, un truc totalement qui ne pouvait même pas arriver, mais c'est ça qui fait flipper. Tu te dis, c'est des enfants, quoi.
Vous écoutez Europe 1, 11h30, le journal de la santé avec Elisabeth Assayag.
Un vaccin porteur d'espoir pour les personnes malades du sida, les détails à suivre. Un centre psychiatrique à Bourg-en-Bresse pointé du doigt pour ses méthodes du Moyen-Âge. Et puis les myrtilles ne sont pas seulement bonnes pour les maladies cardiovasculaires, elles sont aussi excellentes pour notre mémoire.
Et tout d'abord donc ce vaccin porteur d'un énorme espoir pour les victimes du sida.
Un vaccin thérapeutique contre le sida a été testé dans le plus grand secret à Marseille depuis 2013. Il présenterait des résultats remarquables. 9 patients l'ayant reçu seraient en voie de guérison. Écoutez les explications de nos confrères de France 3.
Les essais cliniques de ce candidat vaccin contre le sida ont duré 3 ans. Et les résultats qui viennent d'être publiés sont encourageants. 46 volontaires infectés par le VIH ont reçu le vaccin qui a significativement fait baisser la quantité de virus dans leur sang. Chez 3 d'entre eux, il n'est même plus détectable. Le chercheur français à l'origine de cette découverte travaille au CNRS à Marseille.
On peut annoncer dès aujourd'hui, c'est que nous avons enfin un traitement qui agit sur le réservoir de cellules infectées et la trithérapie à elle seule ne permet pas d'éliminer ces cellules infectées. Il faudrait 70 ans de trithérapie. Et donc, grâce à ce vaccin, nous avons pu faire gagner 70 ans de trithérapie aux patients, ce qui est déjà un premier bénéfice.
La molécule devra maintenant être testée à grande échelle avant d'envisager une commercialisation. En France, 150 000 personnes sont infectées par le virus du sida et la trithérapie est le seul traitement.
Voilà, mais on précise que ces résultats encourageants ont été aussitôt contestés par l'Agence nationale de recherche sur le sida, donc affaire à suivre.
Le VIH reste un problème majeur de santé publique et de portée mondiale, qui a entraîné jusqu'ici plus de 40,1 millions de décès. Il n'existe toujours pas le moyen de guérir de l'infection à VIH. La maladie induite par le VIH peut être prise en charge au moyen de schémas thérapeutiques reposant sur une association de 3 médicaments antirétroviraux ou plus. À l'heure actuelle, le traitement antirétroviral ne guérit pas de l'infection à VIH mais supprime la réplication du virus et permet au système immunitaire de se renforcer et de reconstituer sa capacité à combattre les infections. Les infections opportunistes et certains cancers. Grâce à un meilleur accès à une prévention, à un diagnostic, à un traitement et à des soins efficaces, y compris par les infections opportunistes, l'infection à VIH est devenue une pathologie chronique qui peut être prise en charge avec la possibilité de vivre longtemps et en bonne santé. Je vous invite à visiter notre site popourichaud.com et retrouver les bonnes adresses des centres de dépistage près de chez vous ou encore certaines adresses, certaines associations qui soutiennent des personnes qui vivent avec le sida dans le Grand Toronto. Comment mettre fin aux préjugés associés au VIH-Sida? Dans son école, dans son milieu de travail, dans ses cercles d'amis. Pour conclure ce segment sur le sida, je vous invite à écouter attentivement l'expérience d'une jeune étudiante de la région de Oakville en Ontario. Tu es femme, tu es noire et tu es séropositive. Ce monde n'a pas été construit pour toi. Voilà la vérité crue qu'a entendue Mulumba Abanyama de la bouche de sa mère alors qu'elle peinait à trouver sa place dans son école secondaire d'Oakville. Aujourd'hui, Moulouba a 28 ans et sait déjà comment s'y prendre pour provoquer des changements sociaux en communiquant ses expériences personnelles. La réalité de Moulouba, une présentation de CUT 89,5 FM, la radio de l'Université de Toronto.
Maloba est exceptionnelle. Maloba a un sens de l'enseignement. Elle est créatrice de contenu. Maloba est une tante. Maloba est une sœur. Maloba vit avec le VIH. Je m'appelle Moulouba, ou Maloba, comme la plupart des Canadiens m'appellent. À l'âge de 2 ans, on m'a diagnostiquée avec le VIH. Mon père, infidèle pendant son mariage, a contracté le VIH, l'a transmis sans le savoir à ma mère, qui, sans le savoir, me l'a aussi transmis.
Je m'appelle Sean Hossein. Je suis le rédacteur scientifique et médical de Cathy.ca. VIH signifie virus de l'immunodéficience humaine. S'il n'est pas traité, le VIH affaiblit le système immunitaire et si le système immunitaire est affaibli, les gens peuvent contracter des infections potentiellement mortelles et des cancers. C'est ce qu'on appelle le sida.
Comprendre ce qu'est le virus d'un point de vue scientifique était facile, mais comprendre ce qu'il est dans la société était beaucoup plus compliqué. Ma mère avait ses idées préconçues sur le VIH qui, je pense, était peut-être très répandue. Elle pensait simplement que sa plus jeune fille et elle allaient mourir en quelques mois. Je suis allée dans une école catholique. Même si personne ne savait que je vivais avec le virus, j'avais l'impression d'être la risée de tous. Puis j'ai vraiment réalisé que, oh, c'est peut-être grave ce que j'ai en fait. C'est un secret, et plus particulièrement de la honte. Je ne pouvais pas m'imaginer sortir avec un garçon et le lui dire, et je ne savais pas à quoi ça ressemblerait d'avoir un travail tout en ayant ça. Je pensais que le VIH allait mettre fin à ma vie. Grandir était loin d'être simple. Je me souviens clairement d'avoir parlé à mes médecins et qu'ils m'aient dit, « Prendre tes médicaments te garderait en bonne santé. Ça tiendra le virus hors de portée. Tu pourras vivre longtemps et rester en santé. » Je ne pense pas que c'était quelque chose que l'on disait aux personnes vivant avec le VIH avant.
I égale I signifie indétectable égale intransmissible. Cela signifie que lorsque vous suivez un traitement efficace, votre virus est si faible qu'il est indétectable. Cela signifie que vous ne pouvez pas transmettre le virus à vos partenaires sexuels.
Pour un virus qui a détruit de très nombreuses communautés, c'est vraiment incroyable de voir que ce même virus, on le détecte et on le traite immédiatement, on vous met sous traitement et vous ne pouvez plus le transmettre sexuellement.
Nous avons affaire à des idées fausses qui datent d'il y a 40 ans, d'une époque de peur et de panique, et qui sont encore diffusées. De nombreuses personnes séropositives ne pensent pas toujours qu'il est possible d'en parler à cause des idées reçues qui circulent encore.
À un moment donné, j'ai réalisé que je n'avais pas à avoir honte. Ça m'est venu naturellement de vouloir dire ma vérité. J'ai sorti mon caméscope et mis ce maquillage rose sur mes lèvres. Et dans mes toilettes, j'ai enregistré une vidéo où je révélais que j'étais séropositive. J'ai reçu tellement d'amour, et bien sûr, de la haine, et ensuite du silence. Mais je ne l'ai pas regretté. Je me suis sentie très en contrôle et vraiment en paix. Et à toute personne qui vit avec le VIH, qu'elle a été récemment diagnostiquée, ou qu'elle lutte contre le virus ou contre la stigmatisation, je l'encourage à aller demander de l'aide. À demander ce dont elle a besoin. Vous pouvez vous rendre sur le site de Cathy pour obtenir plus d'informations sur la vie avec le VIH et sa signification. Il y a énormément de ressources pour vous.
Je pense qu'il est important de se faire tester de temps en temps. Toute personne sexuellement active ou qui l'a déjà été doit connaître son statut afin qu'elle puisse, si elle est séropositive, obtenir de l'aide et un traitement.
Ma mère m'a dit quand j'étais plus jeune, « Tu es noire, tu es une femme et tu vis avec le VIH. » Ce monde n'est pas fait pour toi, mais tu feras en sorte qu'il le devienne. J'ai grandi, j'ai enterré ma mère et mon père, j'ai fait des choses que des gens aussi jeunes ne devraient pas avoir à faire. Je suis allée dans une école post-secondaire, j'ai fait ma place sur le marché du travail, j'ai eu des rencontres, j'ai eu des liaisons, j'ai quitté des relations. Au début, j'appréhendais même de faire ce projet. Et j'ai reçu des conseils de personnes qui m'ont dit,
Tu sais, tu peux en faire ce que tu veux et tu pourrais rappeler à tout le monde qui tu es. Tu pourrais rappeler aux gens que le VIH n'est qu'une facette de qui tu es. Ce n'est qu'un fragment de mon histoire.
Oh, le sida, une terrible maladie. Le sida, un mal qui ne pardonne pas. Le sida, un mal qui n'épargne personne. Oh, ce fléau, le sida, qui laisse impuissante la médecine. Le sida ravage tous les peuples. Il y a peu, l'Europe et l'Amérique accusaient l'Afrique d'être le berceau du sida. À une période récente, l'Asie se disait écartée par le mal du sida. Aujourd'hui, tous ces continents se retrouvent attaqués. Le sida n'y arrête pas sa sinistre course. Toutes les couches de la société sont victimes du sida. Bébés, enfants, jeunes, adultes, vieillards, ouvriers, bureaucrates, cadres, hommes, femmes, et même les médecins eux aussi. Le sida peut frapper n'importe qui. Le sida peut tuer. Il tue tout le monde qui ne cherche pas à se protéger. Vous, frères et sœurs, qui êtes déjà atteints du sida, ne cherchez pas méchamment à contaminer les autres. Oh, Mawa. Malade yon sotan bosani mama. Motoazwa malade balobi sida. Motoazwa fièvre balobi sida. Motoa konda balobi sida. Moto akufa balobi akufi na sida. Kasibe maladi akala. Puna nini tombo sani mama. Nzambe, 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 nzambe. Kaka yoye. Maladi yoye uti wapi mama. Mama ye. Ba malade yon sotan bon sani mama. Hey.
Écoutez la planète chanter. rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voyage.
Adra ben la posa, ding et dong.
Non, ding et
écoutez la planète chanter.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
Découvrez Radio Player France. Radio Player, c'est une nouvelle façon de penser, de consommer et d'aimer la radio. C'est une application qui réunit le meilleur des radios françaises, des web radios et des podcasts. C'est un projet commun réunissant les six principaux groupes de radios françaises. Altice Média, Lagardère News, les Indes Radio, les radios du groupe M6, Énergie Group et Radio France. Mais c'est surtout une ouverture pour tous, avec un contenu énorme, complet et entièrement gratuit. Avec des offres localisées et un modèle prédictif basé sur l'écoute des auditeurs. C'est pour tous les usages, partout et à tout moment. C'est sur tous les supports. Smartphone, ordinateur, enceintes connectées et assistants vocaux, Smart TV et voiture. Avec en plus une qualité de son inégalée. Radio Player France, l'appli de toutes les radios, gratuite et accessible à tous.
Ciné Franco, 25 ans et ça se fête. Et tout au long de l'année, en ligne ou en salle, restez branchés sur CUT 89,5 FM pour découvrir les rendez-vous et les films de Ciné Franco, reflétant la diversité des cultures francophones. Cinéfranco.com, popourishow.com, 25 ans, ça se fête.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris. 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Hommage à un ami et collaborateur, Darnas Toroux, décédé le 19 novembre à l'hôpital St. Michael, Toronto, à l'âge de 67 ans. C'était un être bon, généreux et discret. Il savait écouter les autres et avait une sagesse en lui. J'ai rencontré Darnas pour la première fois dans les années 90, lors des émissions de radio. Et il était président d'une association qui soutenait les personnes d'origine africaine vivant avec le sida à Toronto. On a beaucoup collaboré. Il a soutenu, parrainé à plusieurs reprises, festival de films africains dont j'étais un des membres fondateurs avec le regretté professeur Fred Case de l'Université de Toronto. Chaque jour, presque, il m'envoyait des messages sur l'actualité de l'Afrique et du monde. Il va beaucoup me manquer. Tout le monde est un peu déboussolé par cette disparition. Des témoignages attestent combien il était apprécié dans la communauté francophone. Je lirai, avant la fin de cette émission, quelques messages que nous avons reçus des amis, des auditeurs qui ont côtoyé, qui ont bien connu Darnas. Toute la communauté de la Toronto French School où travaillait Darnas en est très attristée par cette terrible nouvelle. Darnas était professeur de sciences sociales à l'école supérieure de la Toronto French School. Voici un extrait du message que la TFS a publié. Il était très admiré par ses étudiants, ses collègues et nous savons qu'il faudra du temps pour que notre communauté guérisse de cette perte. Darnas a commencé sa carrière à TFS en 2005, juste après avoir obtenu son diplôme de l'Université d'Ottawa et est rapidement devenu un collègue et éducateur bien-aimé. En plus de son rôle d'enseignant, Darnas était un ambassadeur actif à la Toronto French School. Il a souvent contribué au journal Express de Toronto, fait la promotion de nos programmes et connecté TFS à la communauté francophone. Pendant de nombreuses années, il a également été le coordinateur modèle de l'ONU à l'école et a participé à de multiples voyages avec des étudiants ainsi qu'à de multiples collectes de fonds. En dehors de TFS, il était un bénévole dévoué qui a conseillé les réfugiés venant des zones de conflit partout dans le monde, les aidant à s'installer à Toronto, et il a participé à titre de bénévole dans de nombreux centres de jeunes et groupes de lutte contre le sida. Natif du Tchad, Darnas était diplômé de l'Université du Bénin Togo, connue aujourd'hui sous le nom d'Université de Lomé, où il a obtenu une maîtrise en droit. Il a enseigné et travaillé pour le département des affaires étrangères à N'Djamena et a poursuivi sa carrière au sein de différentes missions à l'ONU. Nos pensées vont à la famille de Darnas et à tous ceux qui l'ont appelé un ami. Et maintenant, je vous invite à rencontrer M. Ernest Ngongo, enseignant de mathématiques supérieures à la branche du secondaire de la Toronto French School. Il a été recruté dans la même année que Darnas et ils ont très vite sympathisé. Ils étaient comme deux frères à l'école et en dehors de l'école. Ernest Ngongo, comme ses collègues, ont apporté tout leur soutien à Darnas jusqu'au bout. Et je tiens à remercier la direction de la Toronto French School, une institution exemplaire à mon avis. Ernest Ngongo, enseignant de mathématiques supérieures à la Toronto French School. On l'appelle tout de suite.
Allô?
Bonjour, je pourrais parler à monsieur Ernest Ngongo, s'il vous plaît.
Qui parle lui-même, oui.
Bonjour, Eric Adair de CIUTFM.
Ah, ok, Toronto. Je vous attendais là.
Alors, je vous suis tout d'abord très reconnaissant de participer à cette émission en hommage à notre grand ami, notre frère Darnas Toru. Et au nom de toute l'équipe de la radio, je vous présente mes sincères condoléances. Nous sommes à vos côtés dans cette épreuve. Alors, pour situer un peu les auditeurs, vous êtes enseignant de mathématiques supérieures à la branche du secondaire de la Toronto French School. Dans votre message, vous écrivez, et je cite, « Darnas et moi avions été recrutés la même année, il y a 17 ans. On a très vite sympathisé, partageant toutes ces années le même espace de travail. Et depuis lors, on a vécu comme deux frères à l'école et en dehors de l'école. Ça doit être très très dur pour vous, vos collègues et les étudiants. » Comment ils ont réagi en apprenant la nouvelle, justement?
Personnellement, ça a été un choc, parce que je dois vous informer que c'est moi qui l'ai trouvé. Quand il est tombé malade, il a été amené à l'hôpital, on ne savait pas. Parce que chaque jour, il appelle. Chaque jour, depuis 17 ans, nous discutons géopolitique, parce qu'il est très fort là-dedans. Le soir, un jour, deux jours, j'entends pas de ces nouvelles. Puis j'ai commencé un peu à m'inquiéter. C'est comme ça qu'on a mis la recherche en branle là. Et puis pour malheureusement apprendre de l'hôpital que non, il est ici et tout ça. Et depuis lors, on est là et il ne nous est jamais revenu.
Alors, on se parlait régulièrement, il n'y avait pas un jour ou une semaine qui ne m'envoyait pas un texte, un article, une réflexion, une analyse sur l'actualité africaine ou un événement qui a fait le buzz dans l'actualité. Il me manque déjà terriblement. Comment avez-vous, alimenter cette et élargir cette amitié, parce que finalement c'était une amitié pas seulement professionnelle mais aussi vous aviez beaucoup de points en commun.
Absolument, ça veut dire que tout a commencé comme je l'ai dit dans ma petite note là, tout a commencé ici à l'école là, on a partagé et puis bon, on a commencé à discuter et puis c'est là que j'ai découvert que le monsieur, il était très 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 fort en géopolitique et comme j'ai même discuté un peu de tout ça, ce qui se passe à travers le monde, il était une vraie bibliothèque. Oui. C'est comme ça qu'en dehors de là, on commence à sortir et tout ça, et bon, on est devenus plus que des amis, de vrais frères. Là, on a voyagé, on est allé à Cuba, en Belgique, partout ensemble et tout ça, parce que pour des raisons d'amitié et tout ça. C'était une bibliothèque et puis on est devenus des frères, quoi. On a vécu comme des frères.
Oui. Y a-t-il une cellule de crise ou de soutien disponible pour aider justement vos collègues et les étudiants?
En tout cas, je dois ici profiter de l'occasion pour remercier vraiment l'école a mis tout en branle là pour soutenir les élèves, pour soutenir les collègues. L'école a fait plus et continue de faire plus dans ce cadre-là, ouais.
Oui. Alors j'ai appris aussi qu'il y aura des hommages académiques organisés par la Commission de France.
Il y a un hommage qui est rendu ce 5 décembre en son honneur, quoi. Je crois que c'est lundi. Oui, l'école fait tout ça et puis nous aide beaucoup. Sans leur soutien, on aurait eu de la misère. C'est à travers l'école qui nous a aidé vraiment à ramener même sa fille ici pour que sa fille soit à ses côtés. Hein.
Oui. Alors Dana Sourou est natif du Tchad, diplômé de l'université de Lomé au Togo, où il a obtenu une maîtrise en droit. Il a enseigné et travaillé pour le département des affaires étrangères à N'Djamena et a poursuivi sa carrière au sein de différentes missions à l'ONU. Dans les années 90, j'étais membre, fondateur et président d'un festival international de films africains à Toronto, African Film Now, et c'est là où je l'ai rencontré pour la première fois alors qu'il était président de APA, partenariat entre les Africains contre le sida, et on cherchait à négocier un partenariat. Cette rencontre a été déterminante pour moi personnellement, car j'ai pris connaissance que malgré la bonne volonté du Canada de traiter tout le monde et surtout les patients, les personnes les plus vulnérables d'une manière équitable dans les soins de santé, tel n'était pas le cas. C'était une de ces luttes d'Ernest Toro pour combattre les injustices et les obstacles dont font face les personnes d'ascendance africaine. Et je sais que son atterrissage à la Toronto French School a été pour lui un peu comme une chance pour lui, car la francophonie de cette époque n'était pas nécessairement préparée d'accueillir des personnes du calibre de Darnas. Et j'en connais personnellement qui sont décédés prématurément, malheureusement, du stress, de mauvais traitements. Quand on se parlait, il faisait toujours des éloges de la Toronto French School. Il aimait beaucoup ses élèves, ses collègues.
Oui, oui.
Et vous,
il était en communion avec ses élèves. Il enseigne de très jeunes élèves, mais c'est fantastique, hein, le soutien qu'il donne et puis l'amour qu'il reçoit d'eux, ça c'est fantastique, quoi.
Est-ce que il vous a partagé ses projets, ses rêves, peut-être aussi ses regrets, déceptions? Est-ce qu'il menait des combats que nous ne connaissons pas nécessairement?
Ces combats, c'était toujours au profit de l'autre, quoi. C'était un humaniste, hein, d'Arnas, quoi. Donc, comme tu dis là, c'était monsieur très impliqué dans les géopolitiques, de voir ce qui se passe à travers le monde, en Afrique et tout ça, et à travers les discussions, il avait des rêves, c'est vrai, il avait des rêves pour l'Afrique, pour son pays, le Tchad et tout ça. Bon, la situation étant ce qu'elle est, bon.
Mais, édition spéciale en hommage à Darnas Toro, enseignant en sciences sociales à la Toronto French School, décédé le 19 novembre à l'âge de 67 ans à Toronto. Notre invité aujourd'hui, Ernest Ngongo, enseignant de mathématiques supérieures à la branche du secondaire de la Toronto French School. Cette émission est réalisée en collaboration avec la TFS, Toronto French School. Fondée en 1962, la Toronto French School est une école indépendante, bilingue, mixte, non confessionnelle. Plus d'infos sur www.tfs.ca et cet entretien est disponible sur notre site web popourishop.com. Alors, le 20 avril 2010, Darnas a écrit un article dans le journal L'Express de Toronto faisant l'éloge de ses collègues et du TFS. On peut y lire « Pendant 12 jours, 16 élèves de la Toronto French School, encadrés par deux enseignants, ont séjourné en Équateur dans le cadre d'un projet Toronto French School et Free the Children dans le contexte de bénévolat communautaire international. Une riche expérience vécue par ces jeunes et les deux encadreurs en question étaient Madame Suzanne Tonin et Monsieur Ernest Ngongo. » Et il termine en disant « Incontestablement, des vocations sont nées. » C'est ça aussi, hein, la mission de votre école, d'élargir les horizons de vos élèves, leur exposer aux réalités et des expériences des peuples et des nations différentes des leurs, n'est-ce pas?
Absolument. Oui. On a été partout, partout là. On a été en Inde, on a été en Équateur, on a été dans beaucoup d'autres pays similaires et tout ça.
Ouais. Alors, je sais qu'il a de la famille au Tchad. Sa fille Mariam vit à New York. Mariam vit à New York. Savez-vous si le corps sera rapatrié au Tchad ou il sera enterré à Toronto?
D'après ce que je vois, je n'ai pas une assurance sûre à vous, mais je pense que ce sera enterré à Toronto, quoi.
Ouais.
Je pense que.
Alors, je veux prendre un instant pour remercier très chaleureusement la direction de votre école, Toronto French School, vos collègues, vous-même. Vous êtes déplacé, hein, j'ai entendu, régulièrement pour lui rendre visite à l'hôpital. Vous méritez notre profonde reconnaissance au nom de Darnas, de l'équipe de la radio et de nos amis à l'Université de Toronto. Et aussi de son ami, Dr Alain Nguyen, que vous connaissez sans doute.
Absolument,
avec
oui.
Qui, d'ailleurs, les deux se sont rencontrés lors d'une émission de radio. Hein, il y a...
Ah oui.
Et d'ailleurs, Darnas et Alain étaient des grands copains. Je pense qu'ils devaient rencontrer Alain la veille ou le jour même.
Le jour même, oui. Ouais. Il devait aller le récupérer du laboratoire où il avait le rendez-vous pour le contrôle cardiaque, tout ça.
Oui.
Alors, jour même. Mais tout s'est précipité avant cette rencontre. Ouais.
Alors, Darnas n'avait peut-être pas de parents proches à Toronto, mais vous, nous étions un peu comme sa famille d'adoption. Et donc, merci.
Tout à fait, oui.
Merci encore, Monsieur Ernest Ngongo, d'avoir pris quelques minutes pour nous parler de notre ami, notre collaborateur de plus de 20 ans à la radio. Et je vous prie de présenter nos plus profondes condoléances et notre gratitude à la direction de votre école et vos collègues.
Je vous remercie beaucoup.
Et pour terminer, Et pour terminer, je vous rappelle que nos portes sont grandes ouvertes pour des aventures radiophoniques avec vos collègues, vos élèves. Nous avons des temps forts tout au long de l'année, tels que le mois de la francophonie au mois de mars, le mois de l'histoire des Noirs en février, le mois national de l'histoire des autochtones, des peuples autochtones. Une façon pour nous de continuer la mission de notre ami frère Darnas Toru,
tout à fait,
et
oui.
Que la terre lui soit
légère. Nous ferons en sorte que peut-être que vous ayez vous échangez avec un de ses élèves, présent ou passé, et tout ça, peut donner une autre perspective de lui, quoi, en tant qu'enseignant.
Très bien, monsieur Ernest Ngongo, enseignant de mathématiques supérieures à la branche du secondaire de la Toronto French School. Je vous remercie infiniment d'avoir passé quelques minutes en notre compagnie et au plaisir de vous rencontrer très prochainement, je l'espère, meilleur dans de meilleures circonstances. Et bon courage, hein, et que la force soit avec vous.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Enseignants, à travers vous brûle la flamme des fondements d'une nation. Un seul mot ne suffirait pour traduire votre mission, se dédier à sa fonction et en faire une passion, transformer l'éducation. Vous nous apprenez à voler, sur un tableau vous tracez, à coups de règles et de crayons, l'itinéraire d'une vision que nul ne pourrait effacer. Transformer l'éducation. Noble est la mission. L'essence de la connaissance. Symbole de transmission. Jamais l'abîme de l'inconnu ne vous trouvera dépourvu de méthodes pour innover quand sera l'heure d'assimiler la plus complexe des notions. Peu importe l'équation, vous avez la solution.
Hommage à Darnas Toru, décédé le 19 novembre 2022 à Toronto. Un message de notre ami et collaborateur, M. Gérard Poupet, ancien professeur à la Toronto French School et ancien président de Français du Monde Toronto. Que Darnas nous inspire dans ses actions, ses valeurs et son engagement transmis aux jeunes, comme aux moins jeunes. Nous avons partagé ses combats et nous allons continuer à suivre ses empreintes pour tout ce qui peut rendre notre monde meilleur, avec du temps donné au temps avec des citoyens engagés, avec une société de consommation qui promeut individualisme et simplification dans un monde perturbé. Alors Darnas, continuons ensemble avec ton esprit et ton cœur près de nous. Tenons le cap sur le chemin que tu aimais arpenter, in memoriam, Rest in peace. Merci beaucoup, cher Gérard. On se reparle très prochainement. Notre deuxième invité nous attend au bout du fil, Monsieur Sylvain Vasseur. Il est professeur de français, d'éducation civique, d'histoire à la Toronto French School, l'école internationale du Canada.
Allô?
Monsieur Sylvain Vasseur?
Oui, c'est bien moi.
Bonjour, Éric Adair de CUT FM.
Bonjour.
Tout d'abord, c'est avec une infinie tristesse que nous avons appris le décès de notre ami, collaborateur de longue date, plus de 20 ans, Darmas Toru. Et au nom de la radio de l'Université de Toronto, je vous présente mes sincères condoléances et merci beaucoup de participer à cette émission spéciale en hommage à Darmas Toru. Alors, vous êtes professeur de français, d'éducation civique et d'histoire au TFS, l'École internationale du Canada. Quel souvenir gardez-vous de Darmas et pourriez-vous témoigner de l'impact, de l'influence qu'il a eu sur vos collègues et les élèves?
Bah, tout d'abord, je vais préciser que on a travaillé ensemble pendant pas mal d'années, 6 années pour être précis, que ce soit en histoire ou en éducation civique. Et en éducation civique, j'ai toujours ressenti chez Darmas une envie d'aller même beaucoup plus loin que le curriculum de l'Ontario. Par exemple, ça lui était très cher de sensibiliser chez nos élèves l'importance de l'engagement citoyen, quelque chose qu'on a toujours essayé de mener à bien en classe. Il le faisait vraiment tel un credo. C'était un véritable combat pour lui de montrer les injustices dans ce monde, et en particulier celles que l'on trouve dans le grand cours. On avait à cette occasion développé plusieurs projets dans lesquels les élèves travaillaient sur une problématique sociale, par exemple les sans-abri ou le manque d'accessibilité au logement. Et on travaillait sur plusieurs problématiques comme ça, et on essayait de sensibiliser nos élèves qui proviennent plutôt d'un milieu privilégié. Et c'était pour lui la chose la plus importante, de former des citoyens et surtout qu'ils s'engagent par là-dessus. Voilà.
Oui, je sais que cette nouvelle a plongé dans une profonde tristesse beaucoup de gens de la communauté. Quand vous savez, plusieurs membres de la communauté, en général les auditeurs, sont très peinés en apprenant cette nouvelle. Il était un genre de catalyseur dans la communauté, un mentor pour beaucoup de nouveaux arrivants, un être remarquable, très cultivé, très capable, et je sais qu'il adorait son emploi au TFS. Il m'a confié un jour que la Toronto French School était comme sa deuxième famille. Je sais que durant la pandémie et le confinement, il a trouvé ça extrêmement pénible. Il aimait aussi ce respect, cette grande compréhension de ses collègues à votre école. Comme vous savez, il écrivait aussi de temps en temps dans le journal L'Express de Toronto. Il participait à nos émissions et n'hésitait pas de dénoncer, comme vous l'avez si bien dit, les injustices, les pratiques d'exclusion de certaines institutions. Pour sa part, le TFS était l'employeur idéal car il sentait ce respect et il était écouté. Il aimait beaucoup ses élèves. Comment les élèves vivent-ils cette disparition subite?
Je pense, c'est difficile de répondre exactement pour l'ensemble des élèves, mais c'était une figure dans l'école. Il était là depuis de nombreuses années, bien évidemment, mais au-delà du nombre d'années, je crois que c'est surtout sa personnalité qui marquait l'établissement, parce qu'il avait cette joie de vivre incroyable, ce sourire, et cette capacité à... parce qu'être enseignant, ce n'est vraiment pas évident comme métier, et il avait cette capacité à finalement à rebondir sans arrêt. La journée pouvait être difficile, le lendemain, il était opérationnel, il arrivait tôt le matin, il partait tard le soir. Donc il était vraiment... dédié à son métier, et je crois que les élèves le voyaient vraiment. Souvent, j'ai pu le voir dans les couloirs, des élèves qui l'interpellaient, qui lui demandaient comment il allait, ou des nouvelles, etc., etc. Donc, il faisait partie de cette école, véritablement, comme vous l'avez dit, de cette communauté. Il avait un parcours aussi atypique. Pour un enseignant, il a eu un nombre incroyable d'expériences à l'étranger, aux Nations Unies, et je crois que ça en fait un très très bon enseignant, parce qu'en fait, il était capable d'enseigner, mais aussi d'utiliser son expérience. Et je crois qu'il arrivait à toucher les élèves de cette manière-là. Ce n'est pas seulement une leçon qui reprend les attentes d'un curriculum, il allait bien au-delà de ça, il donnait de lui-même. Et je crois que les élèves le voyaient. Et c'est aussi pour ça qu'ils l'appréciaient. On aimait aussi son côté très conteur, il était capable de raconter des événements, des anecdotes, et ça, les élèves adorent. Ils adorent quand ils arrivent à percevoir qu'on donne un petit peu de notre vie, en classe.
Oui. Voilà. Et je sais que l'école en a fait beaucoup depuis son décès, et je vous remercie infiniment de la part de tous les auditeurs, mes collègues à l'Université de Toronto et aussi les membres de l'équipe. Que compte faire justement votre école pour préserver la mémoire de Darnas?
Pour l'instant, je n'ai pas vraiment la moindre idée, sauf qu'on, bien sûr, il va y avoir des cérémonies qui vont être organisées très bientôt, mais je pense qu'il y aura des actions peut-être plus discrètes ici et là, de la part des enseignants, mais aussi de la part peut-être même des élèves. Et encore, on est encore un peu dans cette période un peu de deuil. C'est un peu compliqué pour le moment d'évoquer ce qu'on va faire. On ne sait pas toujours exactement ce qu'on voudrait tous faire pour lui. Et à titre vraiment personnel, j'aimerais, si on me l'autorise, bien sûr, à planter un arbre en son nom. Symbole de vie, enracinement, puisque c'est une personne qui vient du Tchad et qui a vécu dans plusieurs pays dans le monde, mais qui s'est enraciné finalement à Toronto, qui a créé ses liens très forts dans la communauté francophone. Et moi, à titre vraiment personnel, je trouve qu'un arbre qui lui serait dédié me plairait beaucoup. Oui. Je pense que très prochainement, notre chef de... notre principal va organiser une cérémonie en son nom.
Oui. Alors, tenez-nous au courant. Nous sommes partie prenante, comme vous savez, pour toute activité, événement, pour commémorer et garder, préserver la mémoire de Darnas Tourou. C'était un personnage. Hein. Et il aimait beaucoup votre école, et il en a fait mention à notre émission en plusieurs reprises, y compris dans le journal Express de Toronto. D'ailleurs, sur le site de la Toronto French School, on peut y lire « Être humain qui réfléchisse, citoyen qui agisse ». C'en est la devise du TFS, un apprentissage efficace fondé sur la notion d'ambition académique, selon laquelle apprendre est un cheminement merveilleux et fascinant. Dans ce contexte, l'apprenant devient un voyageur éthique et intellectuellement curieux en quête de sens. Avec son bagage intellectuel et professionnel en tant qu'ancien fonctionnaire au Tchad, comme vous l'avez mentionné, à New York, il a beaucoup, beaucoup contribué en tant qu'agent de changement communautaire, notamment auprès des réfugiés, des personnes vivant avec le VIH à SIDA sur le plan communautaire, parce qu'il trouvait qu'il y avait trop d'obstacles pour les réfugiés, les personnes atteintes du VIH. Pensez-vous que Darnas était un atout pour votre école? Avait-il une approche peut-être un peu pédagogique assez particulière?
Oui, je pense que son expérience de vie a fait que, en tant qu'enseignant, il était capable de raconter les événements qu'il avait pu vivre. Et je pense que c'est justement sa force dans sa pédagogie, l'authenticité. Je crois que les élèves, aujourd'hui, sont demandeurs de ce genre de démarche. Comme je l'ai précisé un petit peu avant, une leçon, ça peut être basé sur un curriculum, oui, mais il y a une chose essentielle, c'est de donner envie à l'élève de développer la curiosité. Et à travers son expérience, sa manière de parler, il arrivait à toucher les élèves. Et c'est ça que je trouve formidable chez lui et qu'on lui enviait, honnêtement, parce que c'est une force. C'est d'ailleurs une très belle chose, c'est une personne en général. Mais dans le métier d'enseignant, il avait réussi à développer ça, cette stratégie qui lui permettait d'être très proche des élèves, de créer un contact et de montrer, comme vous l'avez dit, le reste du monde. C'est un peu aussi la devise de notre école. On est une école internationale, on a envie d'explorer ce monde. Mais... il en était, à mon avis, un parfait représentant de l'idée de citoyen du monde.
Oui. Mais vous savez, quand il a été embauché à votre école, pour lui, il considérait ça comme une chance, une très grande chance. Et il adorait son travail. Il me parlait souvent avec passion ce qu'il faisait à l'école, de vos collègues, des étudiants. On sait que le milieu scolaire n'est pas toujours facile, mais pour lui, il avait une joie d'aller à l'école à chaque jour. Et je pense que la pandémie lui a causé pas mal de petits soucis parce qu'il n'avait pas ce contact humain avec ses collègues et les étudiants.
C'est tout à fait vrai. Je me souviens de cette période difficile. Le contact était vraiment crucial pour lui. On s'était appelé à plusieurs reprises. Je sais qu'il a appelé d'autres collègues, des amis, mais c'était pas suffisant. Oui. Il y avait cette chaleur humaine chez lui, le besoin d'un contact vraiment véritable, visuel, plutôt que par moyens technologiques. Voilà. C'est vrai, je vous l'accorde, quelque chose de...
Alors je rappelle aux éditeurs qui ne connaissent pas très très bien votre école, moi j'en connais parce que j'ai des collègues, des amis qui ont envoyé leurs enfants dans votre école et ils sont parfaitement bilingues, ce sont des grands messieurs, dames maintenant. Alors vous avez une belle équipe, très diversifiée, avec deux campus, campus de Toronto, 306 avenue Lawrence Avenue Est et le campus Ouest, 1293 avenue Meredith à Mississauga. TFS, réputée pour la qualité de son programme d'études, fondée en 1962, c'est une école bilingue, mixte, qui associe au curricula de la France, de l'Ontario, l'approche du baccalauréat international, offrant ainsi une expérience riche en diversité et possibilités. Et parmi vos anciens élèves, pour les gens qui nous écoutent, peut-être ils vont reconnaître ces noms. Vous avez des élèves notables. On peut y retrouver un ministre de l'immigration, de la citoyenneté et du multiculturalisme au Canada, un médecin, fonctionnaire de l'ONG, War Child Canada, des athlètes olympiques, des personnalités de la télévision, journalistes canadiennes, un pilote IndyCar, un poète et romancière à succès, une ambassadrice à l'OTAN, nos commissaires du Canada en Malaisie. La Toronto French School est située, je vous rappelle encore une fois, 318 Lawrence Avenue. Et je vous invite à visiter le site, très beau site d'ailleurs, www.tfs.ca. Alors, ça fait 35 ans cette année que nous sommes en onde. Et au nom de CUTFM et l'Université de Toronto, j'aimerais vous inviter ainsi que vos collègues, vos élèves, à des émissions spéciales qu'on organise chaque année lors du mois de la francophonie au mois de mars. Il était partenaire, partie prenante à chaque fois qu'on organisait ce mois de la francophonie et j'espère un jour peut-être poursuivre ce cheminement avec vous comme aurait fait Darna Storou. Les portes sont grandes ouvertes.
Je vous remercie beaucoup et je suis tout à fait d'accord avec vous. La francophonie, le développement du bilinguisme est évidemment crucial, important pour ce pays. Mais même au-delà de ça, je pense que le français est une langue internationale. Oui. Et c'est une chance et c'est une force.
Oui. Et alors, pour terminer, je veux remercier l'ensemble de vos équipes et la direction de votre école qui soutiennent les démarches dans l'organisation des funérailles de notre ami Darnas. À vous, vos collègues, merci infiniment pour votre humanité, votre générosité. La communauté vous en remercie très chaleureusement. Monsieur Sylvain Vasseur, professeur de français, d'éducation civique et d'histoire à la Toronto French School, l'école internationale du Canada, merci du fond du cœur. Je vous souhaite bon courage et que la force soit avec vous et vos collègues. À très bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Au revoir.
Enseignante, enseignant, à travers vous brûle la flamme des fondements d'une nation. Un seul mot ne suffirait pour traduire votre mission, se dédier à sa fonction et en faire une passion, transformer l'éducation. Vous nous apprenez à voler, sur un tableau vous tracez, à coups de règles et de crayons, l'itinéraire d'une vision que nul ne pourrait effacer. Transformer l'éducation. Noble est la mission. L'essence de la connaissance. Symbole de transmission. Jamais l'abîme de l'inconnu ne vous trouvera dépourvu de méthode pour innover quand sera l'heure d'assimiler la plus complexe des notions. Peu importe l'équation, vous avez la solution.
Proudly student and listener supported community radio. CIUT 89.5 FM, celebrating 35 years as the sound of your city.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com. Et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Quoi de neuf ? Les cafés du Créfaux.
En partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM. Comment évoluent nos modes de vie et nos sociétés dans le monde? Comment se porte le monde de l'éducation, les francophonies et la diversité? Bienvenue au podcast Quoi de neuf à les cafés du Centre de recherche en éducation franco-ontarienne, le CREFO, et la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto et l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario. Le CREFO, un centre de recherche interdisciplinaire qui pose un regard critique sur les pratiques éducatives, sociales et langagières de la francophonie en Ontario, au Canada et dans le monde. Abonnez-vous au podcast Quoi de neuf à les cafés du CREFO et c'est gratuit. Vous pouvez y avoir accès où que vous soyez dans le monde. Et cette troisième saison est animée par professeur Laura Bisaillon et tourne autour du thème de la production, de la diffusion des connaissances sur les mobilités, les francophonies, la minorisation, le corps et l'état dans divers contextes du monde. Quoideneuf.ca. Abonnez-vous maintenant.
Et il y a aussi nous, nous qui luttons pour exprimer nos pensées, nous qui luttons pour chercher le respect des autres, nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte, nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux, nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels, nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie, nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Le livre du jour. Chaque semaine, notre partenaire, la maison d'édition Prise de Parole, nous présente l'actualité et les nouveautés littéraires avec pour seul mot d'ordre, le plaisir. Découvrez les écrivains de la diversité francophone de l'Ontario et du Canada. Chaque dimanche, Popourri Show et Prise de Parole.ca nous donnent envie de déguster des histoires, dévorer des pages, savourer les mots enfin gourmets de la littérature. Retrouvez sans attendre toutes les entrevues des autrices et des auteurs sur popourrichaud.com ou découvrez tout simplement les nouveautés littéraires du moment sur prisedeparole.ca.
C'est le moment où le pays a revêtu ses trois couleurs.
Énormément de suspense, la beauté du foot.
Et tu frappes ! Exceptionnel frappe d'Antoine Griezmann. La puissance, elle est toujours là.
Dans ces moments-là, c'est plus fort que soi. Il y a des joies que l'on ne contient pas. Il y a des larmes que l'on ne retient pas.
Du monde de football 2022, un événement à suivre dès le 20 novembre sur TF1.
CIUTFM, la première radio de Toronto, élue par le Now Magazine en 2021. Toute l'équipe de la radio vous remercie de votre fidélité. En 2022, Popourri Show et CUTFM fêtent leur 35e anniversaire. Popourri Show, la seule émission en langue française, a renouvelé sa convention de partenariat avec Radio France Internationale. 2022 s'annonce une année riche en événements et en surprises. Hommage à Darna Storrow. collaborateur à CUT FM et enseignant à la Toronto French School. Décédé le 19 novembre 2022 à Toronto. Une émission réalisée en partenariat avec la direction et les enseignants de la Toronto French School. Avant de passer à notre dernière invitée, une collègue qui a travaillé de très près avec Darnas, j'aimerais vous lire rapidement quelques extraits d'un message émouvant d'une grande francophone engagée d'origine africaine de Toronto. Elle s'appelle Fanta Ongoiba. Elle est la directrice générale de l'APA, partenariat entre les Africains contre le sida. Elle a bien connu Darnas, car Darnas a travaillé chez APA pendant un certain temps. Bonjour, cela faisait une belle lurette que je n'avais pas de ces nouvelles. Cela me fait très plaisir de participer à votre émission pour un témoignage sur notre très cher frère Darnas. Il y a de cela 21 ans que je l'ai connu. Je l'ai toujours appelé Koro, qui veut dire grand frère en Bambara, dans notre langue locale au Mali. Cette appellation est signe de respect envers l'aîné. Mon cher Koro nous a quittés le samedi 19 novembre 2022. Que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix. Il m'a toujours supporté dans mon combat pour l'accès au financement et au traitement pour les personnes vivant avec le VIH à SIDA. Mon Koro m'a rejoint à APA pour travailler comme le coordinateur de la prévention, donner des ateliers dans les différentes communautés africaines ici à Toronto. Nous sommes devenus une famille de telle sorte qu'à chaque fois qu'il appelait ses enfants à New York, il m'incluait dans ses appels. Cela me va tout droit au cœur. Grâce à son humilité, j'ai connu ses parents ici à Toronto, sa nièce, Hortense, ses cousines, ses cousins. Darnas fut un père, un tonton, un frère, un éducateur, un ami, un conseiller, surtout aimable, que l'on ne peut oublier. Je ne pourrais passer sous silence toutes ses bienfaisances autour de lui. Il était intègre. Darnas est mort physiquement, mais ne l'est pas spirituellement. Que le Tout-Puissant l'accueille dans sa miséricorde et lui accepte dans son paradis éternel. Il m'a toujours appelé Madame Ongoiba, jamais Fanta. À tous les amis, les collègues, les collaborateurs, les parents, les enfants de mon Koro, je vous souhaite du courage et je vous présente toutes mes condoléances les plus attristées. Que le Tout-Puissant apaise notre douleur. Koro, repose en paix. Ta petite sœur, Fanta Ongoiba. Merci infiniment, cher Fanta. J'ai bien hâte de vous revoir, de voir la belle équipe. Pour visiter le site de APA, partenariat entre les Africains contre le sida, www.apa.ca, vous retrouverez les coordonnées, les liens de APA sur notre site web popourichaud.com. Un autre message rapidement de Hassan Mayo, New York. Darnas Toru, ami et collègue, est un cadre compétent, un personnage simple et courtois, avec une grande capacité de travail. Nous avons eu le même parcours et ayant servi au ministère tchadien des Affaires étrangères, la mission permanente du Tchad à New York, mais aussi comme fonctionnaire international au département de maintien de la paix, DPKO de l'ONU, et servi à la MINURSO au Sahara occidental. Nous avons vécu ensemble à New York avant son départ pour Toronto, au Canada. Je présente mes profondes condoléances à sa famille, surtout sa fille Mariam Toru, tous ses parents et amis. Brother Darnas, rest in peace and God bless you. Ma dernière invitée, madame, monsieur, est une personnalité à découvrir, à connaître absolument. Elle est née en France, de parents vietnamiens. Elle est professeure de français à la Toronto French School et a travaillé en étroite collaboration avec Darnas. Ils ont fait beaucoup de voyages ensemble avec leurs étudiants. Et c'est grâce à Darnas qu'elle a ainsi découvert les richesses, la beauté, la diversité des francophonies torontoises. Elle est extrêmement bouleversée par la disparition de son ami, qu'elle considère comme un mentor, un père. Accueillons, mesdames, messieurs, Irène Fan, professeure de français au Toronto French School.
Allô?
Professeur Irène Fan?
Oui.
Bonjour, Eric Kader de CUT FM à la radio de l'Université de Toronto.
J'ai fait une erreur de manipulation quand j'essayais de décrocher.
Ça va. Tout d'abord, j'adresse toutes mes condoléances à vous, la famille de Darnas Toru, sa fille Mariam, ainsi qu'à la communauté de votre école. Merci infiniment d'être à cette édition spéciale en hommage à notre ami Darnas Toru. Alors, vous avez un parcours assez atypique, particulier. On pourrait vous parler pendant des heures. Vous êtes né en France en 1981, de parents apatrides, fuyant le sud de Vietnam en guerre, ce qui vous donne droit à cette double nationalité, nationalité canadienne et française. Vous avez un master de lettres classiques, littérature française, grec, ancien et latin, et en éducation, CAPES à Paris 4, Sorbonne. Vous êtes à Toronto depuis 2008, vous enseignez depuis 2009 à la Toronto French School depuis 2011, et c'est cette année-là que vous faites la connaissance avec Darnas Toru. Vous dites, et je cite, « Darnas a été un collègue avec qui j'ai beaucoup travaillé en grade 6 et 7. Nous avions souvent des classes communes. J'ai enseigné les sciences sociales en grade 6 pendant quelques années et j'ai travaillé directement avec Darnas pour élaborer les cours. Nous sommes vite devenus amis et faisions des sorties amicales et culturelles ensemble. » Nous aimions beaucoup discuter à bâtons rompus ensemble. Ces dernières années, j'ai moins eu l'occasion de le voir en dehors de l'école à cause de la pandémie, mais aussi parce que je suis devenue maman avec deux jeunes enfants. Le temps est compté. Mais je le savais toujours là pour moi et nous parlions souvent à l'école. Sa perte est immense pour notre communauté scolaire et il laisse un grand vide dans mon cœur. Professeur, soyez assuré, je comprends parfaitement votre douleur. Cette nouvelle a été brutale pour moi, pour toute l'équipe. 2022 a été une année difficile. On a perdu beaucoup de têtes d'affiche de la francophonie. Réapprendre à plusieurs têtes, quand on passe des moments de deuil comme ça, c'est pas toujours facile. J'ai appris avec le temps, réapprendre à vivre passe par un travail de deuil qui demande du temps, avec l'aide précieuse de l'entourage, des collègues, d'amis et parfois de professionnels. Quelle a été la réaction de vos collègues, de vos élèves en apprenant cette terrible nouvelle?
Parce qu'en fait, on a vu Darnas, on va dire relativement en forme. On sentait qu'il était un peu affaibli, mais on le voyait, puis il était toujours de très bonne humeur, très chaleureux. Il était toujours plaisant de lui parler dans les couloirs, en fait. Et on l'a vu une semaine, enfin la fin d'une semaine, et puis la semaine suivante, on apprend qu'il est à l'hôpital, qu'il est mal en point, qu'on ne sait pas trop s'il va s'en sortir. Donc ça a été vraiment un choc fort pour la communauté. On s'est mis à écrire des mots, des cartes à Darnas, les élèves ont fait des posters, avec des messages qui reflétaient vraiment la personnalité de Darnas, à quel point il a pu marquer les élèves. Moi, cette année, j'enseignais avec lui en grade 6, et les élèves de grade 6 m'ont très peu connu, en fait. Ils ont connu 2 semaines et demie, 3 semaines. Et quand j'ai lu leur message sur les affiches, j'ai été très émue parce qu'en fait, en 3 semaines, Darnas a réussi à créer vraiment une relation assez forte avec ses élèves. Ces élèves étaient capables de le décrire. Je le reconnaissais à travers les mots des élèves. Ils disaient de lui que c'était un professeur chaleureux, qui avait toujours des conseils sages, des avis avisés, qui était à l'écoute, qui diffusait du bonheur, de la chaleur dans les classes. Donc c'était vraiment mon ami Darnas et mon collègue, excusez-moi, qui apparaissait à travers ces mots, en fait.
Alors il y a une très grande amitié qui s'est installée entre vous deux. Vous aviez quelque chose en commun, deux enseignants d'origine étrangère, lui du Tchad, vos parents de Vietnam et vous de France, mais toujours un peu compliqué quand on arrive et redémarre sa vie, surtout au niveau professionnel, dans un nouveau pays. Est-ce que c'était peut-être ça le lien qui faisait cette relation d'amitié, ou est-ce que je me trompe?
Oui, quand je suis arrivée à TSS, j'ai commencé à enseigner en sciences sociales et en français. Et j'ai travaillé directement avec Darnas, qui était à ce moment-là aussi toujours professeur de grade 6 et 7. Et moi, j'étais toute nouvelle, en fait. Et Darnas, très rapidement, est devenu comme un papa, un petit peu, pour moi. Et il m'a tout de suite aidée. On a eu de grandes discussions. Il m'a beaucoup... soutenu dans mon enseignement, nous avons fait des activités ensemble et on a passé du temps en fait en dehors des salles de classe pour discuter, préparer les cours et évidemment nous parlons de nos parcours familiaux et il était très intéressé par l'histoire de ma famille en fait.
Est-ce qu'il y a des anecdotes cocasses qui se sont déroulées pendant tout ce temps que vous avez passé avec Darnasse, que ce soit avec vos collègues ou les élèves de votre école?
Alors moi, j'ai pas mal d'anecdotes personnelles, en fait, parce que j'ai passé un certain temps avec Darnasse en dehors de l'école. Je voulais en partager une en particulier, en fait, qui n'est pas forcément liée à l'école, mais à son à ses articles dans l'Express de Toronto, en fait. Une fois, je lui avais parlé d'Annie qui ouvrait un restaurant antillais au Kensington Market. Et tout de suite, ça l'a beaucoup intéressé. Il m'a demandé s'il pouvait leur donner un coup de main, écrire un petit article pour encourager leur nouveau restaurant. Et ça s'est fait très vite. J'ai contacté mes amis, nous sommes allés les voir, on est allés déjeuner sur place dans leur nouveau restaurant. Et puis Darnasse, j'ai vu comment ils travaillaient là. Il a tout de suite créé une belle, comment dire, un bon lien de confiance avec mes amis. Il a discuté très vite avec eux, il leur a posé des questions et j'ai vu que mes amis ont raconté leur propre histoire liée aux Antilles françaises, en fait. On a passé une après-midi très sympa où on a fait un peu de cuisine antillaise, créole et Darnasse a écrit cet article, j'ai pris des photos et voilà, c'est ce genre de choses que je voudrais partager sur Darnasse, qui était vraiment très actif dans la communauté francophone, qui était toujours à l'écoute, généreux de son temps, très solidaire avec toutes les personnes qui ont envie de transmettre quelque chose, de construire quelque chose.
Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais vous lire un message que nous venons de recevoir du poète-écrivain Eddy Bouraoui, qui écrit, et je cite... Oui, Eric, mon cœur est lourd en apprenant cette triste nouvelle, le décès du frère et de l'ami que j'ai connu par l'ami décédé Jocelyne Labrette, qui nous invitait à dîner de temps en temps. J'appréciais beaucoup ce frère africain, discret et affectueux, qui me donnait de temps en temps de ses nouvelles. Et je pense que vous avez rencontré justement le professeur Bouraoui à travers Darnasse Touhou, n'est-ce pas?
Oui, et aussi à travers sa compagne, Jocelyne Labrette, qui était professeure de français à la TFS aussi. Il s'occupait des élèves non francophones. Et du coup, on était ce groupe qu'on se rencontrait de temps en temps, tous les trois, et peut-être d'autres amis aussi. Et au décès de Jocelyne, Darnasse et moi avions fait aussi des discours pour Jocelyne, et Darnasse avait été aussi très affecté par la mort de Jocelyne, qui était donc aussi la compagne d'Eddy Bouraoui. Et du coup, tout ça résonne vraiment en moi, parce que maintenant, je me dis que c'est mon ami Darnasse qui est parti, il n'est plus là pour nous soutenir.
Oui. Voilà, nous sommes arrivés presque à la fin de cette édition spéciale en hommage à notre ami Darnasse Touhou. La communauté de Toronto, Toronto French School, est en deuil. Darnasse Touhou était professeur de sciences sociales à l'école supérieure de la Toronto French School. Il est décédé le samedi 19 novembre à Toronto. Plus de détails sur l'organisation de ses funérailles, suivez-nous sur popourishow.com. C'est la même adresse pour télécharger cette présente émission. Professeur Irène Fan, veuillez présenter mes remerciements et mes sympathies à vos collègues et un merci très spécial à Ronan Le Guerne, qui est directeur marketing et communication. Il a su coordonner toutes ces entrevues de ce dimanche avec une main de maître. Je suis extrêmement reconnaissant aussi envers vous, vos collègues, Ernest Ngongo, Sylvain Vasseur, qui ont présenté une facette de la vie professionnelle de Darnasse Touhou, cet homme qui a marqué les esprits, les cœurs de votre école. Je souhaite que sa contribution et ses œuvres inspirent nos jeunes francophones à l'écoute. Darnasse, je sais que tu nous écoutes. Tu n'es pas visible, mais nous, on t'oubliera jamais. Nous aurons d'autres occasions pour rendre hommage à Darnasse. Est-ce que vous ne savez pas si l'école compte faire quelque chose pour une cérémonie en hommage très prochainement, non?
Alors, une assemblée est prévue le lundi 5 décembre. Pour Darnasse, il reste encore à régler les détails, mais une cérémonie est prévue pour lui le lundi 5 décembre.
Oui. Alors nous pensons bien fort à sa famille au Tchad et à sa fille Mariam qui vit à New York et son meilleur et grand ami Alain Nguyen, professeur, chercheur, analyste, fonctionnaire au gouvernement de l'Ontario. Cher Darnasse, que la terre te soit légère. Irène Fan, professeur de français à la Toronto French School, était notre dernière invitée. Une fois de plus, un grand merci, cher professeur. J'espère vous voir très prochainement à notre antenne.
Merci beaucoup d'avoir bien voulu m'entendre et je peux vous assurer que Darmas a vraiment laissé une grande marque dans l'école. Même les personnes qui le connaissaient moins, qui ont eu moins de temps de le connaître, comme je vous l'ai dit, les élèves qui ne l'ont pas connu très longtemps, l'ont vraiment tout de suite, très vite apprécié et il laisse vraiment un grand vide.
Mais que la force soit avec vous, ainsi qu'à vos collègues et les étudiants de votre école. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, cher professeur Irène Fan. J'espère vous rencontrer très prochainement. Eh oui, Darnas était un membre de la radio et il y contribuait généreusement à chaque levée de fonds. Il était accro à notre émission, il m'envoyait des messages à chaque émission, chaque dimanche, des petites nouvelles de notre cher continent. Il avait aussi un sens de l'humour très pointu, fin, raffiné. Je ne peux toujours pas accepter cette réalité, pourtant, Darnas n'est plus de ce bas monde, mais il n'est pas loin de nous. Et je sais qu'il nous entend. Une perte inestimable pour toute l'équipe et notre francophonie plurielle, diverse et inclusive. Citoyen du monde, engagé, sans ambition de pouvoir, juste avec sa conviction de pouvoir changer le monde par l'éducation et l'information dans le respect, la tolérance, la non-violence, l'antiracisme et le progrès au service des êtres humains de passage sur cette planète. Nous sommes Darnas. Paix à son âme. Et oui, merci beaucoup pour tous vos messages. Et je lis ici un autre message que nous venons de recevoir du réseau des femmes noires de l'Ontario. C'était un baobab dans notre communauté que nos ancêtres l'accueillent. Nos condoléances à sa famille. Merci, chers amis et fidèles auditrices. J'aimerais remercier aussi quelqu'un qui a déjà collaboré à nos émissions alors qu'il portait d'autres chapeaux. Roland Le Guerne, directeur des communications au TFS à Toronto French School. Merci pour votre aide et la coordination des invités de ce dimanche. Un immense merci au professeur Ernest Ngongo, Sylvain Vasseur et Irène Fan d'avoir accepté de témoigner de votre amitié, de votre reconnaissance à notre cher frère Darnas. Merci à monsieur Gérard Poupé, professeur et poète et ami de toujours de la radio, Eddie Bouraoui, Fanta Nkoiba et Hassan Mayo de New York. Mille merci. Allez, voici, c'est ici que prend fin cette édition spéciale en hommage à notre ami, notre frère Darnas. À la technique, DJ Devera, assisté de Lucie Sloan et animation Eric Adair. Bon dimanche, bonne semaine, que la force soit avec vous. Je vous rappelle que cette émission est disponible sur notre site popourishow.com. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain, si vous le voulez bien. Et bien sûr, je vous laisse avec une dernière musique qui nous vient tout droit du cœur de Tchad, le clip de Ingone Swarty, qui nous offre une fenêtre sur la culture du sud de Tchad, mais aussi dans tout le pays, dans son rythme et sa sonorité. C'est un rythme qui englobe la scène internationale. Dans ce clip, on y découvre l'habillement traditionnel et le pas de danse exceptionnel avec beaucoup d'énergie et d'engagement. Allez, ciao, ciao, ciao.
Viens, yeah. Viens à Sardou, c'est nickel. Sarre ma ville, on est présent. Présenté. Topegila, Boumegila, Begagila, Nganebegila, Yele. Hademouti, Aredira, Bebo. Hademouti, Kareko, Jim Sardo. Yele. Hademouti, Aredira, Bebo. Hademouti, Kareko, Jim Sardo. Test, ton caisse. Test, il caisse. Test, ton caisse. Test, ton Mongo, 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 Mongo
Pour ma ville, je le fais original. Je lève les sables tous avions. De Kumogu à Bédaya. Bessada, Kumran. Gangui, Dodge Rai Bébo. Gangui, Dodge Rai Béda. Enterrons la rage des guerres. Afin que c'est possible. Faisons briller notre ville comme il faut. Ça, c'est notre ville. Ça, c'est notre cité. Ça, c'est notre ville. Ça, c'est tout ce qu'on a en commun.
C'est pas bon, c'est bon, mais admets-le, Mama, I'm gonna pass that convo.